Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal du soir de Radio Kapi, dont voici les titres. Une présence des troupes du M23 est signalée depuis ce mercredi avant midi dans la ville d'Uvira, province du Sud Kivu. Cette présence intervient après plus d'une semaine de combats acharnés entre les rebelles et les forces gouvernementales dans la plaine de la Ruzizi. Le pont Landé, nouvellement construit, désenclave désormais le secteur de Ngandu-Wuma dans le territoire de Lubefu, province du Sankuru. Désormais aussi, personnes et biens circulent beaucoup, beaucoup mieux dans plusieurs localités de la province. La Déclaration universelle des droits de l'homme totalise 77 années. Cette année, l'ONG Akiza Binadamu Maniema dresse à la fois un bilan mitigé et reconnaît quelques avancées. Son secrétaire exécutif est notre invité dans un instant. Bonsoir à tous. Une présence des troupes du M23 est signalée depuis ce mercredi avant midi dans la ville d'Uvira, province du Sud Kivu. Cette présence intervient après plus d'une semaine de combats acharnés entre les rebelles et les forces gouvernementales dans la plaine de la Ruzizi. Détail avec Ronelli Timbonera.
Nos sources dans la région indiquent que c'est vers 11h30 que les premiers soldats du M23 se sont manifestés publiquement dans la ville après une opération de ratissage menée dans la matinée contre certains militaires et combattants Wazalendo ayant refusé de se retirer comme les autres. Des habitants joints depuis Uvira confirment la présence de troupes du M23 appuyées par le Rwanda. En début d'après-midi, la rébellion du M23 a bel et bien confirmé la présence de ces soldats à Uvira, justifiant cet assaut par le motif purement sécuritaire. La chute d'Uvira au nom du M23 intervient alors que les États-Unis et l'Union européenne ont appelé mardi le M23 et le Rwanda à cesser immédiatement leur offensive dans l'est du pays. Parallèlement, considéré comme un allié de premier plan, le Burundi a fermé sa frontière avec la RDC. Ces pays limitrophes, qui accueillent déjà des milliers de déplacés congolais venus d'Uvira, affirment avoir pris ces décisions pour se protéger de toute tentative d'intrusion. Nos efforts pour obtenir la position des autorités congolaises sont Esteban.
Les États-Unis d'Amérique et d'autres pays européens exhortent le M23 et les forces rwandaises à cesser immédiatement les hostilités dans cette partie de la RDC. Dans leur communiqué conjoint publié hier, ces États, à savoir l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, les États-Unis, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et l'Union européenne, réunis au sein du groupe de contact pour la région des Grands Lacs, se disent préoccupés par cette nouvelle explosion de violence du M23 soutenu par le Rwanda aux alentours d'Uvira dans la province du Sud Kivu, proche de la frontière avec le Burundi, une situation qui risque de déstabiliser l'ensemble de la région, craignent-ils. Éclairage une fois avec Grassam Zati.
Dans le communiqué, ces États déplorent l'utilisation accrue des drones d'attaque dans ces conflits. Ceci, affirme-t-il, constitue une escalade considérable des combats et pose un risque grave pour les populations civiles. Ainsi, au regard de la gravité de la situation, ils appellent le M23 et les forces rwandaises de défense à cesser immédiatement les opérations offensives dans l'est de la RDC, en particulier au sud Kivu. Ils demandent à l'armée rwandaise de se retirer du sol congolais conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et au M23 de tenir ses engagements issus de la déclaration des principes signée à Doha le 19 juillet 2025. Ces États exhortent toutes les parties à respecter leurs obligations de protéger les civils, à se conformer à la résolution 2773 du Conseil de sécurité, notamment par le strict respect de l'intégrité territoriale. Ils les appellent à maintenir leurs engagements issus des accords de Washington du 4 décembre 2025 et à engager une désescalade immédiate de la situation. Le communiqué invite par ailleurs l'ensemble des acteurs concernés à s'engager de toute urgence et sans équivoque à appliquer de nouveau le cessez-le-feu ainsi qu'à assurer un accès humanitaire complet, sûr et sans entrave, afin que l'aide d'urgence parvienne à ceux qui en ont besoin.
Entre-temps, dans la province du Nord Kivu, le territoire de Beni annonce qu'il a déjà son plan triennal de sécurité. Il a été adopté hier à Oicha au cours d'un atelier de validation qui a réuni les acteurs de la société civile, bourgmestres et membres des comités locaux de protection, et cela avec l'appui de la section des affaires civiles de la MONUSCO. L'administrateur assistant du territoire de Beni, qui a présidé les travaux, a salué l'engagement de tous les acteurs pour le résultat obtenu. Le colonel Martial Kaloni est au micro de Marc Marot.
Ce plan va nous servir tous pour notre sécurité. La sécurité, ce n'est pas seulement l'affaire des porteurs d'armes, mais c'est l'affaire de tous. Et aujourd'hui, nous connaissons maintenant qu'on ne peut pas gouverner seul. Nous devons tous gouverner. C'est pourquoi on nous apprend la gouvernance participative. C'est pour que tous, nous puissions traiter de nos problèmes sécuritaires, de nos menaces sécuritaires, pour en trouver des solutions. Et voilà, aujourd'hui, nous avons un plan. Nous remercions beaucoup nos partenaires pour nous avoir appuyés, et sur l'inspection provinciale, qui est toujours derrière nous, pour nous coacher. Et voilà, aujourd'hui, nous avons un plan. Et voilà, aujourd'hui, le territoire est heureux. Il a son plan triennal. Donc, de 2026 jusqu'en 2028, nous allons appliquer ce plan. Tous membres du comité local de sécurité, voilà, aujourd'hui, nous avons un plan. C'est notre engagement. Nous nous engageons tous.
Nous vous l'avions dit, dans la province du Sankuru, le secteur de Ngandu-Wuma dans le territoire de l'Oubéfou est désormais désenclavé grâce à l'érection du pont Landé sur la rivière du même nom. Cette infrastructure routière vient faciliter la circulation des habitants, mais aussi l'évacuation des produits comme l'arachide, le maïs, le haricot, le poisson de la rivière Lomami pourra lui aussi être acheminé vers l'Oubéfou-Tchoumbé ou encore Lumumbaville, comme nous l'explique ici Esther Ndalafina.
Les habitants du territoire de l'Oubéfou, surtout ceux des groupements de Ndala et Okudi dans les secteurs de Ngando ou Ouma, isolés depuis plusieurs décennies, peuvent se visiter et échanger plus facilement. Le pont Landé, érigé depuis quelques semaines, remplace les troncs d'arbres instables qui provoquaient des accidents de noyade lors de la traversée. Cela grâce aux efforts et au financement propre du député national Hippolyte Ndjadi, élu de la circonscription électorale de l'Oubéfou. C'est le deuxième ouvrage réalisé par cet élu dans la même zone après la réhabilitation du pont Olé en 2023. Les habitants de l'Oubéfou se réjouissent.
La joie immense pour les réalisations de l'honorable Hippolyte. C'était difficile de faire la traversée. Il y avait des risques. Alors comme le pont est érigé à cet endroit, nous avons la joie. Grand merci pour ces gestes. En tout cas,
merci.
Grâce à cette infrastructure, les arachides, le maïs, le riz et le haricot produits en grande quantité dans la région peuvent être évacués vers d'autres localités. Les poissons de la rivière Lomami trouvent désormais un débouché commercial plus large. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Au Kasaï central, la dynamique chute Katende déplore que les travaux du barrage hydroélectrique de Katende se poursuivent sans aucune participation de la communauté locale. Cette organisation dénonce cette carence et appelle le gouvernement ainsi que l'entreprise Angélique qui exécute le projet à informer la population sur l'avancement des travaux de cet ouvrage. Possien Divin Misenga est au micro de André Katende.
Le projet Katende ne doit pas être exécuté d'une manière isolée. C'est un projet qui fait battre le cœur de tout centre kassaïen parce que ça doit être l'ego du développement de notre région. Et là, nous voulons attirer l'attention du gouvernement central auprès de qui nous avons fait des recommandations pour l'implication communautaire afin que la population puisse avoir l'idée nette de ce qui se passe à Katende parce que tout projet public doit être exécuté avec l'appui, la participation aussi citoyenne. C'est ce que la bonne gouvernance nous exige. Malheureusement, il y a un groupe qui s'est tout accaparé et ça, ils isolent complètement la participation citoyenne. Nous voulons demander au gouvernement d'essayer d'ouvrir les cadres à la participation citoyenne. La société civile n'est pas du tout informée et la population aussi d'une manière générale. C'est ce que nous avons demandé au président de la République pour avoir chaque trimestre des tribunes et des restitutions pour savoir l'exécution du projet.
Un autre pas de plus, dans la province de l'Ituri, le tronçon Komanda-Luna, long d'environ 75 km sur la route nationale 4, est de nouveau ouvert. ouvert à la circulation après 3 ans d'interruption due aux attaques des ADF, mais aussi à la dégradation de la route. La cérémonie de réouverture a eu lieu hier à Luna, à la limite entre l'Ituri et le Nord Kivu, une avancée saluée par les habitants qui y voient un vrai soulagement aussi bien pour la sécurité que pour le commerce. Isaac Remoyope.
Au moins 50 véhicules, voitures de transport en commun et camions ont pu rallier Luna et Komanda mardi lors de la cérémonie d'inauguration organisée par les administrateurs des territoires de Beni au Nord Kivu et d'Irumu en Ituri. Les transporteurs qui devaient jusque-là contourner par Mambasa ou emprunter la route de Kainama au risque de tomber dans les embuscades des ADF expriment leur satisfaction. Selon eux, la reprise du trafic sur la RN4 présente plusieurs avantages. Un trajet plus court et donc moins coûteux, une meilleure circulation des marchandises et des vivres entre l'Ituri, le Nord Kivu et la Tchopo et une intervention plus rapide des forces conjointes engagées dans la traque des ADF. D'après plusieurs sources, cela faisait au moins 3 ans que ces tronçons n'étaient plus opérationnels à raison de la recrudescence des attaques des ADF qui ont fait de nombreuses victimes civiles et détruit plusieurs véhicules. Les bourbiers aussi rendaient la RN4 impraticable compte tenu de l'importance stratégique de cet axe pour l'économie de l'Est et de la RDC. Le gouvernement a financé sa réhabilitation réalisée avec l'appui du génie militaire ougandais. Les usagers demandent désormais au gouvernement de maintenir et renforcer la présence militaire sur cet axe afin de mettre hors d'état de nuire les rebelles des ADF dont les menaces persistent sur cette route stratégique. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
La journée internationale des personnes vivant avec handicap est certes passée depuis quelques jours déjà, mais à Kinshasa, l'ambassadrice du Royaume-Uni en RDC a tenu à manifester sa solidarité à l'endroit de cette catégorie sociale en échangeant avec notamment des jeunes peintres à l'occasion d'une table ronde organisée à marge de la journée internationale. Alison King a plaidé pour éviter toute discrimination des personnes en situation de handicap. Un reportage signé Lukin Zaou.
Pour l'ambassadrice du Royaume-Uni, Alison King, l'objectif de cette rencontre, c'est de valoriser les capacités des personnes vivant avec handicap.
Notre objectif, c'est vraiment mettre plus en évidence, mettre en valeur les compétences, les capacités des personnes vivant avec handicap. Il est impossible pour un pays de vraiment atteindre le succès sans avoir profité un peu des compétences de toute la population, c'est-à-dire les personnes avec ou sans handicap.
Ce rendez-vous annuel a donné aussi l'occasion aux jeunes handicapés de présenter à l'ambassadrice leurs difficultés. Des difficultés évoquées par Rolim Passa, l'encadrant des peintres handicapés.
Le défi est que les personnes vivant avec handicap, ils ont des problèmes pour faire voir leurs réalisations. Vous voyez, comme nous sommes dans la peinture, dans les dessins, il y a aussi les matériels adéquats qu'eux utilisent. Alors, il y a aussi les salles d'exposition. Si le gouvernement pourrait aussi nous accompagner.
Autre difficulté est liée à la vente. Leurs œuvres souffrent parfois d'acheteurs, regrette le peintre Dieu Béninga Lobo.
La dernière fois qu'on avait exposé ici, bon, j'ai rentré avec l'argent à la maison quand même, ça va. Mais ce n'est pas chaque jour. D'autres expositions, vous rentrez sec à la maison, donc ça dépend de la chance.
Ces handicapés que nous avons rencontrés plaident pour leur accompagnement, notamment de la part du gouvernement.
Province du Nord Kivu encore, l'organisation dénommée les écologistes RDC réitère sa demande auprès du gouvernement congolais d'intégrer le territoire de Walikale dans le couloir vers Kivu-Kinshasa. Son coordonnateur national fait cette demande à l'occasion de la célébration de la journée nationale de l'arbre le 5 décembre de chaque année. Il estime que Walikale constitue un modèle régional en matière de conservation de la biodiversité. Prince Kiang le dit ici au micro de Bernadine Diambou.
Le territoire de Walikale est l'un des modèles de conservation de la biodiversité au Nord Kivu et en République démocratique du Congo. Walikale abrite des corridors écologiques importants situés notamment entre le parc national de Kahuzi-Biega et le parc national de la Maïko jusqu'à la réserve des faunes à Okapi à Epulu. entre le parc national de Kahuzi-Biega et le parc national de Virunga, en passant par la réserve des gorilles de Taïna dans le territoire de Walikale. Entre le parc national de la Maïko et le parc national de Virunga, en passant par la réserve des gorilles de Taïna et la réserve des primates de Kisimba et Ikobo dans le territoire de Walikale. C'est à la suite de ces constats que 30 organisations congolaises spécialisées dans les secteurs de l'environnement, des droits humains et ressources naturelles ont saisi Madame la Première Ministre pour demander à celle-ci l'intégration du territoire de Walikale dans le couloir vers Kivu-Kinshasa en révisitant bien sûr les décrets numéro 25/01 du 15 janvier 2025.
Actualité internationale.
En dehors de la RDC donc, l'Australie est devenue ce mercredi le premier pays au monde à interdire les réseaux sociaux aux adolescents de moins de 16 ans. Le Premier ministre Anthony Albanese s'en est félicité, tandis que les grandes plateformes de technologie sont en colère. Des centaines de milliers d'adolescents australiens se sont réveillés ce mercredi déconnectés des applications sur lesquelles ils pouvaient passer plusieurs heures par jour. Et puis au Maroc, au moins 22 personnes sont mortes et 16 autres ont été blessées la nuit dernière lors de l'effondrement de deux immeubles mitoyens à Fès, l'une des plus anciennes villes du Maroc. C'est ce qui a annoncé ce mercredi le procureur de Fès dans un communiqué.
L'invité.
Notre invité est Raphaël Upelele Lokenda, secrétaire exécutif de Akiza Binadamu Maniema. Il dresse un bilan mitigé de la mise en application de la Déclaration universelle des droits de l'homme par les Nations unies 77 ans après. Toutefois, il salue certaines avancées observées, bien qu'il reste beaucoup à faire. Raphaël Upelele Lokenda s'entretient avec Florence Kiza.
Monsieur Raphaël Upelele Lokenga, bonjour.
Bonjour.
Depuis l'adoption par les Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme, aujourd'hui 77 ans qu'on célèbre chaque année la Journée internationale des droits de l'homme. Quel bilan faites-vous de cette journée?
Le bilan, il est vrai, il est mitigé, parce que législativement, c'est-à-dire du point de vue législatif ou documentaire, il y a plusieurs documents ou instruments juridiques internationaux qui ont été adoptés, et il y a aussi beaucoup de mécanismes qui ont été mis en place. Et il y a aussi quelques avancées notables en termes de liberté, des droits, mais il y a encore beaucoup de choses à faire parce qu'il y a encore des fossés entre les prescrits légaux ou les prévisions légales de cette déclaration des droits de l'homme et la réalité sur le terrain. Mais tout ça demande à ce que chacun de nous mette la main dans la pâte. Sinon, il y a quand même une volonté politique de certains États, mais il appartient à chacun de nous de mettre en œuvre, de revendiquer, parce que les droits de l'homme sont des droits de revendication. Nous ne devons pas attendre qu'on nous donne comme sur les plateaux, sur les assiettes.
Pour les communs des mortels, que vise cette déclaration universelle des droits de l'homme?
Bon, la déclaration universelle des droits de l'homme inscrit toutes les catégories des droits de l'homme, que ce soit les droits civils, les droits politiques, les droits économiques, sociaux, culturels. Et tout ça, ça concerne tout le monde, que ce soit au niveau du pays, du continent et aussi international. Voilà pourquoi on parle de l'universalité, de transversalité des droits de l'homme. Chacun de nous doit savoir qu'il est titulaire de ses droits et des prérogatives qui y sont reconnues. Il doit les savoir pour les revendiquer après, sinon ce sont les produits de la revendication.
Dans les pays comme le nôtre, la République démocratique du Congo, qui se fait en état de droit, est-ce que les droits de l'homme sont respectés?
Évidemment, les droits de l'homme sont respectés à une proportion qui n'est pas satisfaisante, parce que nous sommes en train d'exercer nos droits, mais à l'instar aux idéaux, notamment de la Déclaration universelle, c'est là où nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous devons savoir que les droits de l'homme aussi, la déclaration elle-même, c'est un idéal qu'on met à atteindre. On n'a jamais atteint l'idéal à 100%. Mais ça dépend aussi de la manière dont nous sommes en train de faire l'effort. Mais il y a, comme je le disais tantôt, il y a la volonté politique. Par exemple, dans notre pays a ratifié beaucoup d'instruments juridiques internationaux et aussi, il a honoré ses engagements en édictant plusieurs textes légaux au niveau national qui se conforment à cette déclaration. Et même la Constitution, la nôtre, les constituants ont affirmé son attachement aux instruments juridiques internationaux relatif aux droits de l'homme en les citant nommément, notamment la Déclaration universelle, les pactes, les chartes africaines. Tout ça, c'est la volonté politique, mais l'application, c'est une responsabilité aussi de l'État, mais aussi de chacun de nous. Parce que l'État a déjà mis en place les mécanismes et il est question de chacun de nous d'actionner ces mécanismes pour être rétabli dans ses droits.
Mais nous observons qu'il y a de l'ignorance au sein de la communauté. Qu'est-ce que vous, les acteurs de défense des droits de l'homme, vous faites pour vulgariser cette loi?
C'est par exemple aujourd'hui, nous sommes en train de vulgariser. Nous allons distribuer plusieurs exemplaires de la Déclaration des droits de l'homme pour ôter cet alibi de l'ignorance dans les chefs de beaucoup de gens. Mais aussi, nous avons plusieurs activités de promotion, notamment comme nous sommes ici dans la conférence débat avec les différentes couches de la population, la sensibilisation, la formation et aussi les différents rapports, l'assistance, pourquoi pas, des victimes de violations des droits de l'homme. C'est ce que nous faisons pour que nous atteignions les objectifs fixés par les Nations Unies en adoptant la Déclaration universelle des droits de l'homme.
À part l'ignorance, il s'observe également que ce sont les décideurs qui sont les premiers violeurs de ces droits de l'homme.
Il est vrai, quand on parle de violations des droits de l'homme, on voit les préposés de l'État, les fonctionnaires de l'État, parce qu'ils représentent l'État, ils sont les responsables d'application de loi, ils sont aussi des titulaires des obligations. Voilà pourquoi, quand on parle de violations des droits de l'homme, on fait allusion à cette catégorie de personnes, ou soit par leur instigation, soit leur complice, tacite ou exprès. Et pourtant, les droits de l'homme sont des obligations, des impératifs catégoriques de ces autorités-là de l'État.
Comme pour cette année, le thème c'est « Droits humains, nos essentiels de chaque jour ». Ça apporte quel message?
Ça veut dire que tout ce que nous faisons chaque jour rentre dans les droits de l'homme. Les droits de l'homme concernent tout le domaine. C'est-à-dire que chacun de nous doit mettre la main dans la pâte. Sinon, nous ne pouvons pas laisser au seul les décideurs. Mais nous, du fait que nous sommes les titulaires de ces droits, nous devons faire un effort pour soit les promouvoir, soit les revendiquer, soit aider aussi les victimes qui sont en détresse à être rétablies dans leurs droits.
Messieurs Raphaël Oupelele Lokenga, je vous remercie.
À moi de remercier la Radio Okapi.